Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 28 avril 2023. Bonjour à toutes et à tous en direct de Washington, Idrissa Sebudia. Tout d'abord les titres. Au Togo, les attaques terroristes ont fait plus de 100 morts et des milliers de déplacés depuis l'année dernière, annonce le président Faure Gnassingbé. Et au Burkina Faso, une nouvelle attaque de djihadistes présumés a fait plusieurs dizaines de morts jeudi dans l'est du pays. En Guinée, dissolution du bataillon de la sécurité présidentielle, une décision qui surprend plus d'un, selon notre correspondant sur place. Au Soudan, violent combat jeudi à Khartoum et au Darfour, malgré une trêve. Frappe nocturne sur plusieurs villes ukrainiennes, au moins 2 morts à Dnipro. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Au Togo, les attaques terroristes que subit le pays depuis l'année dernière ont fait plus d'une centaine de morts et des milliers de déplacés. Ces estimations émanent du président Faure Gnassingbé lors d'un entretien diffusé sur la télévision nationale à l'occasion de la célébration de la fête nationale du pays. De Lomé, notre correspondant Kossi Wosso.
Le président togolais a indiqué que le pays est attaqué par les éléments de l'État islamique au Grand Sahara et du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans.
Nous avons payé un prix lourd, notamment les forces de défense et de sécurité, qui ont perdu à peu près une quarantaine d'hommes et malheureusement à peu près une centaine de victimes civiles.
Pour faire face à ce qu'il considère comme une guerre, Faure Gnassingbé a annoncé que le Togo a procédé à un déplacement des populations dans la zone, à peu près 12 000 personnes. Le chef de l'État togolais a indiqué que ses compatriotes doivent s'attendre à un long combat avec des périodes de drame. Mais il a assuré que le pays sortira gagnant de ce combat.
Nous sommes déterminés à réduire ces bombes d'armée.
En décembre dernier, Faure Gnassingbé a limogé sa ministre de la Défense et rattaché ce ministère à la présidence. Il a aussi nommé un nouveau chef d'État-major de l'armée. Depuis l'année dernière, le Togo fait face à des attaques terroristes dans la région des savanes, frontalière avec le Burkina Faso. L'état d'urgence sécuritaire qui y a cours depuis lors vient d'être reconduit pour une période de 12 mois. Kossi Wosso, Lomé pour VOA Afrique.
Et au Burkina Faso, une nouvelle attaque, tôt hier matin, dans l'est du pays, a fait plusieurs dizaines de morts parmi les soldats. Le point avec Bagassi Koura.
Au moins 33 soldats ont trouvé la mort et 12 autres ont été blessés dans l'attaque de la base militaire de la localité de Ougarou, dans la zone des trois frontières entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, selon l'état-major des armées. Le communiqué de l'armée fait état d'une attaque complexe d'envergure dans la matinée du jeudi. Les combats ont été particulièrement intenses, souligne l'armée, précisant que l'ennemi est venu en très grand nombre. Selon l'état-major, au moins 40 terroristes ont été neutralisés avant l'arrivée des renforts. Hier soir, 15 corps des militaires tombés ont été transportés par hélicoptère au camp Sangoulé-Lamizana de Ouagadougou. Les 18 autres devront arriver ce matin à Ouagadougou selon nos informations. Selon des sources sécuritaires, la base a été attaquée jeudi vers 4 heures du matin. Les assaillants lourdement armés auraient réussi à détruire toute la base une semaine après le massacre de Karma. Hier, le gouvernement de transition a finalement rompu le silence et a condamné ce massacre de Karma qui a fait au moins une soixantaine de morts selon le procureur de Waiguia dans le nord. Le jeudi 20 avril, le village de Karma, non loin de Waiguia dans le nord, a été encerclé par des hommes habillés en tenue militaire, circulant à bord de motos, pick-up et un char de combat, ont déclaré des rescapés qui affirment que près de 100 personnes ont été tuées.
Au Mali, la junte a réceptionné hier un rare lot d'équipements militaires de la Chine, exclusivement acquis sur le budget militaire, a indiqué le ministre de la Défense, Sadio Camara, lors d'une cérémonie officielle au camp de Kati près de Bamako. Davantage de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Cette livraison est composée de véhicules blindés et tactiques, de camions logistiques, citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement, d'ambulances médicalisées, d'armes individuelles et collectives, d'équipements individuels du combattant, a indiqué Sadio Camara. La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l'autonomisation des forces armées maliennes, a ajouté M. Camara en remerciant le chargé d'affaires chinois. Des livraisons d'équipements militaires russes ont eu lieu en mars et août 2022 et en janvier 2023. En mars, l'armée malienne a reçu plusieurs avions de Russie et des drones de Turquie. Les livraisons d'armes en provenance de Chine sont plus rares.
Pour rester en Afrique de l'Ouest, dissolution surprise hier en Guinée du BASP, bataillon de la sécurité présidentielle. De Conakry, notre correspondant Zakaria Camara.
Le décret qui est lu à la télévision nationale ne donne aucun motif de l'acte du président de la transition. Mamadi Doumbouya dissout le bataillon de la sécurité présidentielle et invite le ministre de la Défense et le chef d'état-major général des armées à la mise en œuvre correcte de sa décision. Ce décret est publié au lendemain du limogeage du directeur général des renseignements généraux. Le colonel Doumbouya dissout le BASP, chargé de la sécurité du président et du palais. La nouvelle surprend plus d'un. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Soudan, les combats se sont poursuivis hier. L'armée a bombardé jeudi les forces paramilitaires à Khartoum par des frappes aériennes, tandis que des combats meurtriers se sont déroulés au Darfour. Résumé de la situation avec Mohamedou Houmfa.
Des avions de guerre ont survolé la banlieue nord de Khartoum alors que des combattants au sol échangeaient des tirs d'artillerie et des mitrailleuses lourdes selon des témoins. Les hôpitaux ont été bombardés et plus de deux tiers d'entre eux sont hors service, a déclaré hier le syndicat des médecins. Selon des témoins, des affrontements ont fait rage pour la deuxième journée à El Geneina, capitale du Darfour occidental. Les violences ont piégé de nombreux civils dans leurs maisons où ils subissent de graves pénuries de nourriture, d'eau et d'électricité. Au moins 512 personnes ont été tuées et 4193 blessées selon les chiffres du ministère de la Santé, mais le nombre réel de morts est probablement beaucoup plus élevé. L'anarchie qui règne au Soudan a donné lieu à plusieurs évasions, notamment de la prison de haute sécurité de Kober, où étaient détenus les principaux collaborateurs de l'ancien dirigeant Omar El-Béchir. Parmi les évadés figure Ahmed Haroun, recherché par la Cour pénale internationale pour répondre d'accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Darfour.
Quelques heures avant l'expiration jeudi à minuit d'un cessez-le-feu de 3 jours qui n'a quasiment pas été respecté, l'armée et les FR et les FSR ont annoncé avoir approuvé l'extension de la trêve pour 72 heures suite à une initiative de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. Les combats au Soudan ont entraîné le sauve-qui-peut parmi les populations civiles soudanaises et les étrangers vers les pays de la sous-région. Le point avec Michel Joseph.
L'exode massif se poursuit. Le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU a annoncé hier qu'environ 3000 personnes ont traversé la frontière pour se rendre à Amdafok, dans le nord de la Centrafrique, où déjà près de 120 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire. L'agence onusienne s'inquiète des capacités d'absorption de besoins supplémentaires. Les nouveaux arrivants ont établi des camps de fortune dans cette région pauvre et déjà en proie à l'insécurité. Un navire saoudien a accosté hier dans le port de Jeddah sur la mer Rouge avec à bord 187 personnes originaires de 25 pays, ce qui porte à plus de 2544 personnes évacuées par Riyad, dont 119 saoudiens. Plus de 14 000 Soudanais et 2 000 ressortissants d'autres pays sont aussi arrivés en Égypte voisine. Plus de 3 500 personnes de 35 nationalités, dont de nombreux Turcs, ont trouvé refuge en Éthiopie, a précisé l'Organisation internationale des migrations. Selon les Nations Unies, au moins 20 000 personnes ont fui vers le Tchad voisin et quelques 4 000 vers le Soudan du Sud.
Ici aux États-Unis, Mike Pence, l'ancien vice-président de Donald Trump, a témoigné jeudi devant un grand jury dans le cadre de l'enquête sur les tentatives de renverser les résultats de l'élection présidentielle américaine de 2020. C'est ce qu'ont rapporté plusieurs médias américains. Fin mars, le juge avait ordonné à M. Pence de témoigner sur les conversations qu'il avait eues avec son patron avant l'assaut des partisans de M. Trump sur le Capitole le 6 janvier 2020. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir abattu 21 missiles de croisière et 2 drones lors d'une nouvelle attaque meurtrière russe à Kiev et dans d'autres villes du pays dans la nuit de jeudi à vendredi. La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Côte d'Ivoire et le Canada ont signé un mémorandum d'accord cadre de 25 milliards de francs CFA pour des projets de développement prioritaires, notamment dans le domaine de la santé, de l'éducation, la gouvernance et la croissance inclusive. Lors de la cérémonie de signature, la ministre du Plan et du Développement, Nia Lekaba, a déclaré que cet accord est la concrétisation de l'engagement du Canada à accompagner les efforts du gouvernement ivoirien à travers la formulation et la mise en œuvre de projets de développement. La Société nationale des pétroles du Congo a lancé les travaux de construction de sa future tour à Pointe-Noire qui débuteront en juin. Ce nouveau bâtiment de près de 62 mètres de hauteur sera composé de bureaux sur 16 étages avec un auditorium de plus de 550 places, un restaurant, 5 ascenseurs et 2 parkings. Cet immeuble commercial moderne sera équipé des dernières technologies en matière de sécurité et de communication. La deuxième édition du Forum Europe-Afrique se tiendra les 15 et 16 mai à Marseille sous le thème « Nouvelles ambitions, nouvelles ressources et nouvelles technologies ». L'événement organisé par les quotidiens La Tribune et La Tribune Afrique devrait réunir un millier de décideurs dans le cadre de la quinzaine Europe-Afrique qui se déroulera du 8 au 22 mai.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Petro de Luanda et Cape Town Tigers réussissent leur entrée dans la Basketball Africa League.
Oui, comme il fallait s'y attendre, les Angolais de Petro de Luanda, finalistes l'année dernière, ont battu 89 à 71 les Ougandais de City Oilers qui découvrent cette balle bien avant dans le premier match de la journée d'hier. Les Guinéens de Seydou Legacy Athletic Club se sont inclinés 75 à 68 devant les Sud-Africains de Cape Town Tigers. Pour rappel, mercredi, un match inaugural de cette conférence Nil, le club hôte à l'Ali du Caire a eu le dernier mot devant les Mozambicains de Ferroviário da Beira, battu 92 à 74. Pas de match aujourd'hui, c'est jour de repos. La compétition reprend demain avec les rencontres Ferroviário da Beira, Petro de Luanda et City Oilers à l'Ali du Caire.
Le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, candidats communs à l'accueil de la CAN 2027.
Ces trois pays ont lancé une candidature commune pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2027, ce qui permettrait à l'Afrique de l'Est d'accueillir la compétition continentale pour la première fois depuis un demi-siècle. La Confédération africaine de football a reconnu jeudi avoir reçu une déclaration d'intérêt de la part du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Notre candidature conjointe avec l'Ouganda et la Tanzanie pour la CAN 2027 est solide. Il est temps que la Coupe d'Afrique des Nations vienne en Afrique de l'Est, a déclaré mercredi le ministre kenyan des Sports, Ababu Namwamba. Le Kenya a remporté à 2 reprises le droit d'organiser des phases finales de tournois continentaux, la CAN 1996 et le championnat d'Afrique des Nations, CHAN, en 2018, mais s'est vu retirer à chaque fois les droits d'accueil en raison du manque de stades homologués. M. Namwamba a déclaré que son pays construirait de nouveaux stades de haut niveau ou rénoverait les stades existants pour les rendre conformes aux normes internationales. La CAF dit qu'elle a aussi reçu des offres de l'Algérie, du Botswana et de l'Égypte. Elle désirera la candidature gagnante en septembre prochain, ainsi que le pays d'accueil de la CAN 2025, dont l'organisation a été retirée à la Guinée.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, une semaine après le massacre de Karma, à une quinzaine de kilomètres de Ouaïgouya, dans le nord du pays, le gouvernement a réagi jeudi. Dans un communiqué, il s'est dit préoccupé et a condamné ces tueries qualifiées d'actes ignobles et barbares. À Ouagadougou, c'est l'émotion au sein des populations. Les analystes pensent que le gouvernement joue la carte de la prudence et de la réserve. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Le gouvernement, dans son communiqué, n'a pas dressé de bilan, mais a condamné les tueries de Karma, qui auraient fait plus d'une centaine de morts selon les ressortissants et rescapés, et une soixantaine selon le premier bilan du procureur de Ouaïgouya. L'attaque a eu lieu jeudi dernier, il y a exactement une semaine. Les réactions à Ouagadougou. Issa Kabori, magasinier.
C'est quand même triste, c'est triste. En tant qu'un être humain, c'est vraiment touchant. Et c'est déplorable d'attendre que un frère même est décédé. Et n'en parlons pas plus de 100 morts. C'est quand même touchant et c'est regrettant. Si le gouvernement peut encore faire encore plus vraiment pallier à cela, ça allait vraiment aider.
Jean Ouidraogo, étudiant.
On a appris cette triste nouvelle. Bon, c'était un peu difficile à croire que ce genre de situation puisse se produire au sein du pays. Mais quand même, bon, c'est comme on le dit, hein, pendant des moments de guerre, vous ne pouvez pas réussir sans que des gens ne meurent. Ça, c'est une obligation et c'est une probabilité. Et voilà, parce que moi-même, j'ai perdu mon cousin lors de l'attaque à Ouaïgouya.
Augustin Zalé est aussi étudiant en première année d'architecture.
Il arrive souvent que des civils s'arment en tenue de soldats pour aller attaquer la population et puis dire que c'est l'armée qui est venue. Donc je pense que c'est ce que le président a dit, c'est la perfidie et puis ça peut arriver.
Le gouvernement a expliqué dans son communiqué que des populations civiles de Karma ont été la cible d'hommes armés habillés en tenue des forces armées burkinabées. Ils auraient ainsi massacré et pillé les biens de paisibles habitants du village de Karma et blessé plusieurs autres. Pazien, analyste politique.
Le gouvernement aborde la question avec beaucoup de réserve et beaucoup d'attention. Le gouvernement joue la carte de la prudence en y allant tout doucement. Parce que le gouvernement n'affirme pas que ce sont des soldats burkinabés. Le gouvernement n'affirme pas non plus que ce ne le sont pas, parce que le gouvernement annonce qu'il y a une enquête qui a été ouverte. Et cela arrive aussi, je dirais, une semaine après que des voix se soient élevées au niveau du Burkina Faso pour dénoncer ce drame, jusqu'au niveau international. C'est vrai qu'aujourd'hui, le seul port de la tenue burkinabé ne garantit pas que ce sont des soldats burkinabés. Maintenant, le port de cette tenue-là aussi peut créer des présomptions au sein de nos forces. C'est en cela que nous comprenons l'attitude du gouvernement qui tend justement à aborder la question avec beaucoup de réserve.
Le gouvernement a confirmé qu'une enquête a été ouverte par le procureur de Ouaïgouya et il rassure sur de très près l'évolution de l'enquête. Le gouvernement a aussi rassuré qu'il fera absolument tout ce qui relève de ses prérogatives pour la manifestation totale de la vérité dans ce drame. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
La Ligue tchadienne des droits de l'homme et l'Organisation mondiale contre la torture ont publié hier un nouveau rapport sur la répression des manifestations du 20 octobre 2022 au Tchad. Un jeudi noir pour le pays avec nombre d'arrestations arbitraires, de disparitions forcées et d'exécutions sommaires, selon ce rapport. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint le conseiller aux droits de l'homme pour la région Afrique à l'OMCT, Isidore Ngele.
Ce rapport met en exergue une situation effroyable d'exécution extrajudiciaire d'environ 218 personnes. Après avoir constaté les corps de près de 80 personnes dans les morgues, on constate qu'elles ont des impacts de balles quasiment aux mêmes endroits, à la tête, à la poitrine, au dos. ce qui montre un ciblage direct de manifestants. On a aussi constaté à travers des témoignages qu'un nombre de morts n'ayant pas été comptabilisés dans les précédents rapports ont été, par exemple, repêchés dans le fleuve Chari en N'Djamena. On a retrouvé des corps, par exemple, à Mundu, près de l'aéroport. Donc, notre rapport montre en fait qu'il y a eu clairement un plan d'élimination des personnes qui devaient manifester, et cela à travers un déploiement total de l'arsenal sécuritaire tchadien. C'est-à-dire que la police, l'armée, la gendarmerie, la garde nationale, les services de renseignement étaient tous mobilisés ce jour et ont tous fait recours à la force létale. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que ce recours à la force a continué pendant les jours qui ont suivi.
Et vous dites même que ce recours à la force a été prévu, a été planifié. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, donc ce qu'on constate en fait, c'est que ce déploiement dont je parle a commencé la veille. Il a commencé par un quadrillage des grandes villes et notamment de quartiers spécifiques, notamment de quartiers considérés comme contestataires, abritant majoritairement les militants d'un parti politique bien connu, les transformateurs, mais d'autres partis politiques aussi et organisations de la société civile connues comme étant dissidentes. Donc il y avait quelque chose de très ciblé. On a aussi vu qu'il y a eu une chasse à l'homme le premier jour de la répression, notamment des personnes qui ont été arrêtées chez elles, alors qu'elles n'étaient pas arrêtées pendant la manifestation. Et ça, c'est quelque chose qui démontre une forme de planification. Nous avons de nombreux témoignages de mineurs ou de familles qui, jusqu'aujourd'hui, ne voient pas leurs enfants aussi jeunes que 15 ans. D'ailleurs, le gouvernement lui-même a reconnu avoir détenu près de 80 mineurs. Donc, cela montre clairement une planification, quelque chose qui cible une catégorie de la population et qui veut en finir.
C'était Isidore Ngele, conseiller aux droits de l'homme pour la région Afrique, pour l'Organisation mondiale contre la torture.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
À Pire, une commune du département de Tiouaouane, à 130 km de Dakar, capitale du Sénégal, les dernières élections locales ont permis à Mamadou Ndoye Ban d'être porté à la tête de la localité. Ancien soldat, vigile, puis animateur radio et télévision, le nouveau maire de cette localité a permis à des villages bicentenaires dépourvus d'électricité depuis les indépendances et avec un accès à l'eau limité d'y avoir pleinement accès. Pour les populations locales, il est le symbole de l'échec des politiciens classiques. Notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Pluricentenaire avec des centaines voire des milliers d'habitants et peu de commodités, telle est l'histoire de beaucoup de localités du Sénégal. C'est le cas du village de Ndom qui existe depuis deux siècles et qui n'a eu que très peu accès aux infrastructures et aux équipements de base, notamment l'eau et l'électricité. Mayeng Nyan, habitante du village, explique le calvaire que les femmes vivaient au quotidien.
Nous avons traversé des périodes compliquées et vécu des choses très difficiles. Avant l'arrivée de l'eau dans les maisons, il n'y avait qu'un seul robinet pour tout le village et des fois nous pouvions y rester des heures. Par exemple, moi je quittais le domicile familial à l'aube pour aller faire la queue au robinet et des fois j'y restais jusqu'à 10 heures sans avoir de l'eau. Une situation que nous avions déplorée plusieurs fois sans succès.
Aujourd'hui, les populations du village de Ndom ont accès à l'eau et à l'électricité, même s'ils n'y croyaient pas au départ, comme l'indique Maud Diop, le chef de village.
Quand la nouvelle équipe municipale est venue nous voir, nous leur avons exposé nos doléances dont les principales concernaient l'eau et l'électricité, qui n'étaient pas accessibles aux gens du village. Le maire nous a promis de le faire, mais on n'y croyait pas parce que pendant de longues années, les politiciens nous ont bernés. Mais force est de reconnaître que depuis quelques mois, des tuyaux d'eau ont été installés et les villages ont de l'électricité pour la première fois de son histoire.
Une première que le maire de la ville est en train d'étendre aux autres villages de la commune de Pire. Pour Mamadou Ndoye Ban, les politiciens mettent en avant les grandes zones électorales, alors qu'il est important que les populations aient un minimum de commodité, quelles que soient les caractéristiques de leur localité.
Nous faisons notre maximum pour donner un accès à l'eau, à l'électricité, un marché aux normes, construire un stade, en gros, donner un bon cadre de vie aux populations. Le président Macky Sall a dit qu'il voulait qu'avant 2024 ou 2025, voir tous les villages électrifiés. Nous jugeons que les communes doivent être les premières à dérouler cela. En tout cas, nous, à Pire, nous avons une trentaine de villages sans accès à l'électricité. Et depuis notre accession à la municipalité, nous nous battons pour que toutes ces populations aient accès à l'eau et à l'électricité.
Voilà 2024, c'est notre combat.
Un combat bien engagé qui fait dire aux populations que les hommes et femmes issus de la communauté et qui vivent avec elles sont plus conscients des enjeux et défis à relever. Pour elles, ceci est loin de l'attitude des politiciens dits classiques qui ne sont visibles et accessibles qu'en période électorale. Seydina Abagui pour VOA Afrique, Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Nigeria, les autorités sont à la recherche d'un moyen pour mettre fin à la fuite des cerveaux qui frappe le secteur de la santé. Une proposition de loi visant à stopper le départ des médecins se trouve devant le Parlement, mais elle suscite la colère des professionnels de la santé. Cette proposition oblige les diplômés des facultés de médecine à pratiquer au moins 5 ans au Nigeria avant d'obtenir leur diplôme ou tenter de quitter le pays. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Dans les hôpitaux publics nigériens, il n'est pas rare d'observer l'absence de médecins qualifiés. Plusieurs dizaines d'entre eux ont fait leurs valises pour partir à l'étranger à la recherche d'emplois plus payés. Le pays perd ainsi une partie importante de ses agents de santé à cause de la fuite des cerveaux. Comment inverser cette tendance? C'est l'objectif de la proposition de loi qui se trouve devant le Parlement fédéral. Le député Ganoui Johnson, initiateur de la proposition de loi.
Après votre formation, oui, nous ne disons pas que vous ne pouvez pas partir à l'étranger pour chercher de l'argent. Mais si le gouvernement a subventionné vos frais de scolarité de montant allant de 40 000 à 150 000 naira, le moins que nous puissions obtenir de vous, c'est qu'après vos études, avant de vous remettre votre diplôme d'études supérieures en médecine, vous devez rendre service à la société pendant au moins 5 années.
Si ce projet de loi est adopté, les étudiants qui ont terminé leurs études de médecine dans les universités nigérianes devront travailler de façon ininterrompue pendant 5 ans dans le pays avant de recevoir leur diplôme. Les professionnels de santé critiquent cette initiative. Dr Michael Olariwaju, secrétaire général du syndicat des professionnels de la santé d'Abuja.
Le projet de loi n'a aucun sens car le gouvernement n'a pas fourni l'environnement nécessaire pour garder ses médecins. Donc, si vous voulez garder vos médecins, ce que demande notre syndicat d'abord et avant tout, équipez les hôpitaux, donnez-leur des équipements efficaces pour travailler avec ensuite, il faut augmenter leur rémunération.
Selon les statistiques fournies dans la proposition de loi, le Nigeria ne compte que 24 000 médecins agréés, soit moins de 10% du nombre nécessaire pour répondre à la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. D'où la nécessité de trouver une solution à la fuite des cerveaux dans le secteur de la santé. L'OMS recommande 600 patients pour un médecin, mais au Nigeria, c'est 5 000 patients pour un seul médecin. Les responsables de la santé affirment qu'au moins 13 609 médecins nigériens ont émigré, par exemple, vers le Royaume-Uni au cours des 8 dernières années. Emmanuel Agogo, expert en santé publique, est aussi d'accord que cette proposition de loi n'est pas la solution.
Ce projet de loi n'est certainement pas la solution à la crise. D'une part, nous ne produisons pas suffisamment de médecins et nous ne veillons pas à ce que le système de santé soit correctement financé. Donc, si vous voulez changer le système de santé et le rendre plus efficace, vous devez vous tourner vers d'autres pays qui ont fait des progrès dans ce domaine. Nous avons besoin d'un plan radical pour le système de santé au Nigeria.
En août 2022, en pleine pandémie de COVID-19, la centrale syndicale des travailleurs de la santé avait averti qu'un effondrement total du système de la santé était imminent dans le pays si des mesures urgentes ne sont pas prises pour lutter contre la fuite des cerveaux dans le secteur. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée, à l'écoute de VOA.